これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le Gai Savoie.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Jason Taous.
Et à la réalisation, évidemment, François Connac. Une salière sortie des ateliers de Benvenuto Cellini le reportait au sein de la Renaissance, au temps où les arts et la licence fleurissaient, où les souverains se divertissaient à des supplices, où les conciles couchés dans les bras des courtisanes décrétaient la chasteté pour les simples prêtres. C'est sur ce tableau décadent que nous vous avions laissé deux semaines plus tôt, chers auditeurs, tableau qui mêle à la perception du jeune homme sur le point de mourir les divagations d'un esprit que son érudition ne console pas de la douleur. Raphaël de Valentin, héros tragique de la peau de chagrin, est un homme de science dont la connaissance ne supprime pas le désir, fût-ce, comme nous le verrons, à son cœur défendant.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Alors il faut préciser que si 15 jours se sont écoulés pour vous, auditeurs, entre la précédente émission que nous avons consacrée à la peau de chagrin, seulement quelques minutes pour nous, le temps d'une cigarette pour vous Raphaël.
Oui, vous, comme ça vous aurez tout dit, oui.
Et quelques...
Fumer naturellement hors de l'enceinte de la maison de la radio, n'est-ce pas? Parce qu'en vertu de ces lois scélérates, on n'a plus le droit de fumer dans les studios.
Au risque d'y mettre le feu.
Voilà.
Et seulement quelques secondes pour Raphaël. Mais dans lesquelles...
Raphaël, pardonnez-moi, il faut ici préciser
oui,
les
Raphaël
choses.
Raphaël le vrai.
Raphaël le vrai, c'est-à-dire Raphaël de Valentin, le héros de la peau de chagrin.
Et nous l'avions laissé donc dans le cabinet de curiosité, au milieu de ces...
De ces objets,
au milieu, oui, de ces conciles, vous l'avez dit, couché dans les bras des courtisanes.
Ah oui, voilà.
Et vous aviez eu le temps, dans ces quelques minutes qui ont séparé nos deux émissions, de me faire remarquer que ce concile, dans une autre œuvre, c'est Charlus.
Alors, pourquoi ce parallèle? Parce que, d'abord... Il n'est pas douteux que Proust a lu La peau de chagrin, puisque qu'il a lu Balzac, que c'est un lecteur de Balzac, l'influence de Balzac sur Proust est considérable, et il la reconnaît bien souvent. Et en vérité, l'influence de Balzac est plus grande encore sur les personnages de Proust, c'est-à-dire sur les personnages de La recherche du temps perdu, à commencer par le baron de Charlus, qui ne cesse de parler de Balzac. Alors, à ma connaissance, il ne parle pas de La peau de chagrin, mais... il est lui-même dans la position du concile dans les bras d'une courtisane qui décrète la chasteté pour de simples prêtres. Et il faudrait se demander d'ailleurs comment il a réagi lui-même en lisant ce texte-là. Je pense que Charlus, qui aime tant Balzac, n'aurait pas aimé se voir ainsi décrit, si tant est qu'il ait l'honnêteté de se voir lui-même dans ce portrait que Balzac, incidemment, au détour d'une description, propose des conciles. Mais... revenons-en, si vous voulez bien, Paola, à la peau de chagrin.
Oui, je voulais juste relever, puisque dans le passage sur lequel nous étions quittés dans la précédente émission, dans la description de ce cabinet de curiosité, il y avait un mot lui aussi qui a une consonance, une résonance proustienne, c'est le mot « myriade » qu'utilise Balzac et qu'on retrouve dans Combray lorsque le narrateur entre dans la chambre de la tante Léonie et il observe flotter dans l'air les myriades de protozoaires.
Les myriades de protozoaires. Vous avez raison, absolument. Mais tout ça renseigne, ce sont des jonctions intimes hein, entre les écrivains. Et seule une... c'est, ce que je veux dire ici, c'est important pour nos auditeurs peut-être, et ceux de nos auditeurs qui sont encore étudiants. Il ne s'agit pas, quand on étudie un texte, me semble-t-il, d'en repérer les intentions, c'est-à-dire de l'enfermer dans le réseau, dans l'entrelacs des intentions qui ont présidé à sa rédaction. Parce que c'est peu de choses, les intentions qu'un auteur met dans son livre. C'est peu de choses. Si on réduisait un livre à ses intentions, Les Frères Karamazov ne serait qu'un livre sur la religion, selon le propos même de Dostoïevski. Et quand bien même l'intention serait grandiose, un livre est encore plus vaste que ça. C'est le cas, par exemple, dans La recherche du temps perdu. Or, réduire un livre à ses intentions, c'est douter du fait que Proust se soit inspiré de Balzac en parlant des myriades de protozoaires et douter de la référence balzacienne de Proust avec le mot de myriade. En revanche, quand on se fie à une lecture intuitive, étayée par votre connaissance de la recherche du temps perdu, connaissance précise, et la lecture de La peau de chagrin, on établit là des parallèles qui ont la vertu, comme dirait Deleuze, d'être anexactes. Et c'est ce mot qui est important ici, on en a déjà parlé, je le reviens très rapidement là-dessus, parce que Deleuze a forgé là, je crois, un concept absolument central et fondamental, l'anexactitude. Ça n'est pas l'exactitude, puisque ça n'est peut-être pas vrai. Ça n'est pas l'inexactitude, parce qu'on serait bien en peine de dire que c'est faux, et qu'à coup sûr, Proust ne s'est pas inspiré de Balzac quand il a lui-même écrit « Myriade de protozoaires » à propos de la chambre de tante Léonie. Non, c'est l'inexactitude, ce qui est une façon d'être fidèle au texte que nous lisons, et nous essayons, vous et moi, de le faire autant que possible, comme nos auditeurs, d'être fidèle au texte que nous lisons, sans pour autant lui être identique. C'est-à-dire sans réduire ce texte aux intentions objectives de celui qui leur donne le jour. Voilà. Et c'est notre démarche dans Le Gai Savoir. C'est-à-dire que vous avez parfaitement le droit d'établir un parallèle entre ces deux myriades, sans prétendre là dire une vérité philologique, mais en revanche, ce faisant, vous pouvez avoir la prétention, entre guillemets, parce que c'est pas votre défaut, Paola, vous pouvez avoir la prétention d'enrichir d'une certaine façon le texte par ce commentaire que vous en proposez. Donc, c'est une question de méthode, c'est de cette façon-là que nous fonctionnons dans le Gai Savoir.
Alors, peut-être est venue l'occasion d'enfin rencontrer le vieillard qui va fournir à Raphaël la peau de chagrin et qui va déclencher, ou alors c'était déjà déclenché bien avant, l'aventure.
Avant d'entendre le texte qui décrit le vieillard, votre hésitation est intéressante. Le vieillard, en donnant la peau de chagrin à Raphaël de Valentin, déclenche-t-il les événements ? Auquel cas, on est dans le surnaturel. Parce que c'est une fois qu'il a la peau de chagrin que Raphaël de Valentin, réclamant un banquet, rencontre, en sortant du magasin, les trois amis qui l'y conduisent. Et donc, c'est à ce moment-là que, disposant du pouvoir d'un dieu, sans même le savoir, parce qu'à l'époque, enfin, à cet instant-là, il ne le sait pas encore, c'est à ce moment-là que Raphaël de Valentin légifère sur le passé, c'est-à-dire crée, à l'instant où il réclame un banquet, la série causale des individus, ses bons camarades, qui le cherchent dans tout Paris pour faire la fête avec lui. Il crée cela rétroactivement, donc il modifie, il altère le passé de telle façon que les gens se croisent et en viennent au banquet lui-même. Donc si c'est le vieillard qui déclenche l'intrigue en offrant la peau de chagrin à Raphaël de Valentin, alors il faut souscrire à une lecture surnaturelle de ce livre. Si en revanche on considère que tout est déjà déclenché, en d'autres termes, que le livre commence à sa première page, et non au moment où Raphaël de Valentin se saisit du talisman, alors on peut considérer que la série causale qui préside à l'arrivée de Raphaël dans le magasin après avoir perdu ses louis d'or, pour mémoire, hein, on le racontait il y a 15 jours, c'est un jeune homme désespéré qui veut se suicider, qui entre dans un tripot, qui perd ses derniers louis d'or et qui finit par sortir avec l'intention de mourir et qui avant tue le temps en regardant les façades et puis entre dans ce cabinet de curiosité mal nommé, c'est pas vraiment un cabinet de curiosité, ça fait trois étages, c'est un temple, mais à ce moment-là, c'est la série causale commençant au tout début du livre qui le conduit à croiser par hasard des amis après avoir récupéré et mis dans sa poche la peau d'onagre, dite peau de chagrin. C'est important, ça, parce que il existe vraiment deux lectures possibles de ce livre. Aucun des événements qui arrivent dans la peau de chagrin n'est surnaturel. On peut tout à fait lire ce livre comme une série de hasards, de concomitants. C'est d'un individu qui meurt parce qu'il est malade, d'ailleurs lui-même se sent pulmonaire, et non parce que sa vie se réduit à mesure que ses désirs sont exaucés. Donc il faut ici choisir la lecture, et ça n'est pas la même lecture, c'est-à-dire l'hésitation qui est la vôtre est une oscillation entre deux interprétations fondamentales du livre. La première qui est en vogue, c'est que la peau de chagrin, c'est un talisman et on est là dans un conte magique. La deuxième, qui est peut-être plus audacieuse, c'est de dire que tout était écrit à l'avance, au fond, et que il croise ses amis par hasard, ils vont dans un banquet par hasard, il fait la fête par hasard, il hérite par hasard, et il meurt ensuite de sa belle mort.
Mais dans le cas de cette lecture, quel sens donner au rétrécissement progressif de la peau ?
Alors, on peut le comprendre comme un phénomène physique, éventuellement, pourquoi pas, mais surtout, le rétrécissement progressif de la peau, qu'on peut interpréter de façon physique, le racornissement d'un truc, qui ne disparaît pas. Hein. Je veux dire, on ne le voit pas disparaître. Hein. On la voit s'agiter dans la paume de l'homme à l'instant où il va mourir. Elle s'agite comme ce sont les derniers soubresauts de la peau de chagrin. Mais on ne la voit pas disparaître. Donc, on peut l'entendre à ce moment-là comme une métaphore. La métaphore, tout simplement, d'un individu dont les désirs lui coûtent. Et dont surtout les désirs, quand il les exauce, lui coûtent. et qui, par conséquent, s'attache à ne plus désirer. Mais désirant ne plus désirer, évidemment, il est coincé. Donc, moi, il me semble que dans ces conditions, la peau de chagrin n'est que le miroir, le reflet d'une existence tout simplement sacrifiée à la conquête d'un plaisir. ou à la réalisation de ses désirs. Voilà. Mais ce sont donc deux lectures possibles de ce livre et deux interprétations possibles du jaillissement, du surgissement, de l'apparition, surnaturelle ou non, du vieillard sans nom qui lui donne la peau de chagrin.
La nuit, l'heure de mourir était subitement venue. Il s'écoula dès ce moment un certain laps de temps pendant lequel il n'eut aucune perception claire des choses terrestres. Soit qu'il se fût enseveli dans une rêverie profonde, soit qu'il eût cédé à la somnolence provoquée par ses fatigues et par la multitude des pensées qui lui déchiraient le cœur. Tout à coup, il crut avoir été appelé par une voix terrible. Il tressaillit comme lorsqu'au milieu d'un brûlant cauchemar, nous sommes précipités d'un seul bond dans les profondeurs d'un abîme. Il ferma les yeux. Les rayons d'une vive lumière l'éblouissaient. Il voyait briller au sein des ténèbres une sphère rougeâtre, dont le centre était occupé par un petit vieillard qui se tenait debout et dirigeait sur lui la clarté d'une lampe. Il ne l'avait entendu ni venir, ni parler, ni se mouvoir. Cette apparition eut quelque chose de magique. L'homme le plus intrépide, surpris ainsi dans son sommeil, aurait sans doute tremblé devant ce personnage qui semblait être sorti d'un sarcophage voisin. La singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles de cette espèce de fantôme empêchait l'inconnu de croire à des effets surnaturels. Néanmoins, pendant le rapide intervalle qui sépara sa vie somnambulique de sa vie réelle, il demeura dans le doute philosophique recommandé par Descartes et fut alors, malgré lui, sous la puissance de ces inexplicables hallucinations dont les mystères sont condamnés par notre fierté ou que notre science impuissante tâche en vain d'analyser.
Alors, Raphaël, faut-il penser que ce vieillard, on n'a pas entendu le texte jusqu'au bout, mais il y a une référence à Méphistophélès, et d'un autre côté, il y a des références aux personnages judéo-chrétiens de l'Ancien Testament. Ce personnage donc assez composite, hein, qui a des yeux très jeunes, mais qui a l'air très mort, qui est presque enveloppé dans un linceul, est-ce qu'il faut le voir plutôt comme une apparition un peu diabolique qui va entraîner la mort de Raphaël, même si de toute façon il allait se suicider, ou plutôt une apparition de la sagesse qu'il met en garde sur, justement, il vaut mieux savoir que désirer, être dans la contemplation plutôt que dans l'excès?
Et même en deçà de cela, il y a une troisième hypothèse, l'apparition d'un vieux marchand qui propose ses affaires, enfin qui veut faire des affaires avec un jeune homme.
Il lui offre, hein, pourtant.
Passablement habillé. Oui, il lui offre, mais attention, ce qu'il lui offre est un cadeau terrible. Je peux vous faire plus riche que tous les rois du monde, etc. Donc c'est le cadeau empoisonné, mais il lui offre en le mettant en garde. On parle de la peau de chagrin, puisque c'est le vieillard qui lui offrira la peau de chagrin. Mais il y a trois possibilités. Il y a de la plus surnaturelle à la plus ordinaire, au fond, à la plus banale. La plus surnaturelle, c'est que le vieillard est une de ces momies qui est sortie d'un des sarcophages qui se trouve dans le cabinet de curiosité, et que ce cabinet des antiques, comme dit Balzac ailleurs, ce vieillard sorti d'un sarcophage conserve de la vie l'éclat de ses yeux et, pour le reste, est décharné comme il convient à un mort digne de ce nom. C'est-à-dire, c'est un squelette avec des yeux. Et premier élément tout à fait surnaturel qui permet... Il y a même d'ailleurs une équivoque dans le texte lui-même, on va y revenir, hein, puisqu'il y a une référence à Descartes. Balzac dit « La singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles de cette espèce de fantôme empêchait l'inconnu de croire à des effets surnaturels. » Mais enfin, le fait qu'il les nomme montre bien qu'il y a un doute à cet égard. De là la référence à Descartes sur laquelle je voudrais revenir un tout petit peu après. Parce que les deux autres hypothèses sont que le vieillard n'est pas seulement cet être maléfique, sorti de son sarcophage, etc., mais c'est un ange et non pas un démon qui le met en garde. Qui met en garde Raphaël. D'ailleurs, c'est le vieillard qui dira à Raphaël, jeune homme, prenez garde, quand Raphaël se saisit de la peau de chagrin et dit « Oui, je veux vivre 1000 vies et je veux épuiser tous mes désirs. » Le vieillard, d'un geste brutal, à ce moment-là, lui attrape le bras en lui disant « Mais moi-même, je n'ai jamais essayé cela, parce qu'on n'essaye pas de sauter du haut de la colonne Vendôme, si vous voulez. Une fois qu'on a signé le pacte, on a signé le pacte. » Donc, c'est celui qui le met en garde. C'est plus le démon, c'est l'ange. Et ce qui va dans le sens de ce que vous dites, c'est tout le discours que tient le vieillard, qui est très beau, qu'on ne va pas lire maintenant, mais qui est très beau, dans lequel le vieillard dit « L'humanité est mue par le vouloir et le pouvoir, et le pouvoir est mis au service d'un vouloir qui est fou, et les hommes sont infiniment malheureux parce qu'ils ne vivent que sous le régime de ces deux prostituées que sont le vouloir et le pouvoir. » Deux prostituées d'ailleurs qu'on retrouvera dans le banquet, hein, Aquilina et Euphrasie, Aquilina en pouvoir et Euphrasie en vouloir. Deux prostituées donc qui viennent incarner ces deux concepts du vieillard, et le vieillard dit « moi je m'en suis sorti par le savoir ». Et de ce point de vue, vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Et un peu plus bas, il dit « La pensée est la clé de tous les trésors, elle procure les joies de l'avare, sans donner ses soucis. Aussi ai-je plané sur le monde où mes plaisirs ont toujours été des jouissances intellectuelles. Mes débauches étaient la contemplation des mers, des peuples, des forêts, des montagnes. J'ai tout vu, mais tranquillement, sans fatigue, je n'ai jamais rien désiré, j'ai tout attendu. » Position que Raphaël raille en lui disant « Ouais, mais en fait, vous n'avez aucun courage, parce que, en réalité, le pouvoir dont je dispose, moi, avec la peau de chagrin, ce pouvoir que vous m'offrez, me met à 100 lieues de tous ces trésors que vous avez, comme il dit, philosophiquement amassés. » Donc, il y a deuxième instance, ce vieillard qui dit « Oubliez le vouloir, oubliez le pouvoir, sortez du désir, rentrez dans la connaissance. » Et qui fait de la connaissance un usage classique. Schopenhauer fait la même chose. Bien des philosophes font la même chose en considérant que la connaissance rend nos douleurs plus intéressantes que douloureuses, et que le savoir est de bonne compagnie quand on traverse l'existence parce qu'il est propice à l'extinction de ces désirs qui reposent tous sur le décalage. Et j'en viens à l'image de Descartes. La souffrance, l'erreur chez Descartes, comme vous savez Paola, vient du fait que nous avons une volonté infinie comme Dieu et un entendement fini, donc on veut au-delà de ce qu'on peut, c'est pour ça qu'on se plante. Et le vieillard est celui qui propose à Raphaël comme remède, eh bien de savoir plus qu'il ne veut, et donc de remplacer le vouloir par le savoir, et Raphaël lui rit au nez. Et puis troisième possibilité, le vieillard c'est juste un marchand, c'est juste un mec qui veut vendre ses affaires, quoi, qui veut faire des affaires. Troisième possibilité. Mais cette référence à Descartes, elle est importante à double titre. D'abord parce que Descartes est celui qui, au XVIIe siècle, formule, en décrivant la source de l'erreur chez les hommes, dans la quatrième méditation métaphysique, en faisant de l'écart entre une volonté comparable à celle de Dieu, qui fait partie de ces traces, de ces signes que Dieu a laissés, comme le peintre a laissé sa signature sur le tableau, l'ouvrier qui laisse sa marque sur son ouvrage. Donc il y a comme une signature de la main divine, cette volonté infinie que nous avons en partage. Et en revanche, comme le témoignage, l'indice, le signe et la condamnation de notre finitude, cette limitation de notre entendement qui fait qu'on veut plus qu'on peut. Et que du coup, donc, encore une fois, on se plante. Et comme dit Descartes, on se trompe et
on pêche.
On pêche. C'est-à-dire que l'erreur est également une faute. Le texte de la quatrième méditation métaphysique est un texte qui, certains le trouveront merveilleux, d'autres le trouveront scandaleux, est un texte qui indexe le péché sur l'erreur. C'est le même procédé. De la même façon qu'on se plante parce qu'on désire, parce qu'on veut plus qu'on ne peut concevoir, eh bien on pêche, on commet le péché parce qu'on désire plus qu'on ne peut assumer. C'est la même histoire, au fond, pour Descartes. Donc il y a vraiment un parallèle entre l'erreur et le péché chez Descartes. Donc ça, c'est la première référence évidente à Descartes dans La peau de chagrin. Mais l'usage qu'il fait de Descartes ici est un peu différent. Pour mémoire, on a entendu le texte, revenons un instant sur ce texte, c'est très intéressant. Pendant le rapide intervalle qui sépara de sa vie somnambulique de sa vie réelle, Raphaël de Valentin demeura dans le doute philosophique recommandé par Descartes et fut alors malgré lui sous la puissance de ces inexplicables hallucinations dont les mystères sont condamnés par notre fierté, etc. Le doute philosophique recommandé par Descartes lui vient à Descartes du fait que ses sens l'ont déjà trompé et qu'il est de bonne prudence de ne pas se fier à celui ou à celle qui nous a déjà trompé. Donc, on va révoquer tout ce qui n'est pas absolument certain, à commencer par les informations que nous recevons de nos sens. Doute philosophique de Descartes. Or, ce doute philosophique de Descartes pose toute une série de problèmes dont on va pas détailler maintenant, d'ailleurs on l'a déjà fait. Mais toute une série de problèmes, à commencer par la difficulté dans laquelle on se trouve chez Descartes de sortir de cette conscience qui, pour se saisir elle-même, a dû s'abstraire du monde. La conscience chez Descartes, pour mémoire, se saisit en faisant sécession. Et Descartes peine indéfiniment à reconstruire la passerelle qui relie cette conscience au phénomène dont elle est la conscience. Autrement dit, si le monde, si j'ai conscience de moi-même, si pour avoir conscience de moi-même, je dois m'abstraire du monde, alors le monde n'existe plus qu'au titre des impressions qu'il dépose en moi. Et ces impressions ne me garantissent pas la réalité des objets qui m'impressionnent ou qui s'impriment en moi. J'ai besoin de Dieu pour ça, chez Descartes. C'est comme ça que Descartes s'en sort. Mais bon, si on renonce à ce subterfuge, à cet artifice, à cette clé de voûte divine, ou à cette garantie divine, même si l'expression n'est pas de Descartes, si on renonce à ça, la conscience est enfermée en elle-même et on est dans le solipsisme. C'est-à-dire qu'on est dans la conscience d'un homme, c'est Matrix. La conscience d'un homme qui croit dur comme fer au mobilier qu'il a sous les yeux, alors qu'en réalité, ce mobilier n'existe qu'au titre d'un flux nerveux disponible dans son cerveau. Et donc que sa vie est un songe. Or, Raphaël de Valentin, c'est exactement celui dont la vie est un songe. C'est un songe quand il visite le magasin, quand il regarde les objets et qu'il rêve et que sa rêverie s'empare de ces objets pour délivrer le secret de sa personnalité partagée entre vigilance et romantisme, on en a parlé il y a 15 jours. Mais sa vie est un songe également parce qu'à partir du moment où il dispose du pouvoir absolu, tout ce qui se passe peut être vu comme une création de son cerveau, c'est-à-dire qu'il est Dieu. Il est ce que Kant appelle un entendement archétypique qui crée ce dont il a la représentation, donc dont tous les êtres qui l'entourent ne sont que les créatures.
Il est comme dans un rêve lucide.
Il est comme dans un rêve lucide, il est comme dans un rêve dont il est le créateur, dont il est l'artisan. Et donc c'est à double titre que Descartes est ici invoqué dans ce livre qui fait partie des contes philosophiques, enfin je veux dire qui relève à bien des égards d'ailleurs de la pensée magique.
Oui, je voulais dire, c'est pas le seul philosophe invoqué dans ce passage, et c'est un détail intéressant, presque négligeable, mais en même temps un petit peu ironique, c'est que où toute cette scène presque, qui relève presque de la superstition se déroule-t-elle? Sur le quai Voltaire. Le cabinet des antiques, le magasin de curiosités est situé quai Voltaire.
Évidemment. Quand on est sur le quai, on est chez celui qui combat la superstition. Quand on entre dans le cabinet des antiques, on passe aux choses sérieuses, c'est-à-dire aux choses magiques. C'est-à-dire non plus à Voltaire, mais à Descartes. Indûment réduit dans l'histoire des idées à une conquête de la rationalité, alors que c'est typiquement un penseur magique, justement. Pour le meilleur ou pour le pire, mais bon, c'est un autre sujet.
France Culture, le Gai Savoir.
Raphaël Antoven.
On a parlé la dernière fois de ces petites banderilles qui étaient posées par Balzac dans le livre, c'est-à-dire ces trucs où, mêlant le désir, les souhaits qu'on exauce, la référence aux objets de vie et aux objets de mort, enfin cet entrelac et ce portrait vivace de Raphaël à travers les objets qu'il regarde, on a dit donc que Balzac, enfin il y avait des coups d'avance, quoi. En fait, il laissait entendre ce qui allait se passer plus tard. Et ce qui pose toute une série de problèmes. Enfin bon, on en a déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Mais parmi ces banderilles, il y en a une qui est particulièrement intéressante, je crois. C'est avant l'apparition du vieillard, quand Raphaël se promène, qu'est-ce qu'il croise? Une vierge de Raphaël. Mais, dit Balzac, il était là, L-A-S, de Raphaël. Une figure du Corrège qui voulait un regard ne l'obtint même pas. Il était là de Raphaël. Donc, il est là de lui-même, naturellement, et il est là de ce chef-d'œuvre qui prétend justement donner toute sa majesté et toute sa signification à la parole de la Providence. Or, il y a une deuxième occurrence de Raphaël, le peintre, non plus le personnage du roman, mais le peintre.
Monsieur désire voir le portrait de Jésus-Christ par Raphaël, peint par Raphaël.
Il faut le lire, ça.
Monsieur désire voir le portrait de Jésus-Christ peint par Raphaël, lui dit courtoisement le vieillard, d'une voix dont la sonorité claire et brève avait quelque chose de métallique. Et il posa la lampe sur le fût d'une colonne brisée, de manière à ce que la boîte brune reçût toute la clarté. Au nom religieux de Jésus-Christ et de Raphaël, il échappa au jeune homme un geste de curiosité, sans doute attendu par le marchand, qui fit jouer un ressort. Soudain, le panneau d'acajou glissa dans une rainure, tomba sans bruit et livra la toile à l'admiration de l'inconnu. À l'aspect de cette immortelle création, il oublia les fantaisies du magasin, les caprices de son sommeil, redevint homme, reconnut dans le vieillard une créature de chair bien vivante, nullement fantasmagorique, et revécue dans le monde réel. La tendre sollicitude, la douce sérénité du divin visage influèrent aussitôt sur lui.
À quoi ça fait penser? À quoi ça vous fait penser, ça? Ce genre de... Un homme qui regarde un portrait...
Et qui s'y reconnaît?
et qui s'y reconnaît.
J'avoue que...
Mais c'est Dorian Gray.
Ah oui.
C'est Dorian... Enfin, dans Dorian Gray, le portrait de Dorian Gray est l'œuvre de Basil Hallward, si j'ai bonne mémoire, hein, le peintre. J'ai pas le texte sous les yeux. Mais quand Dorian Gray voit ce portrait et qu'il s'y reconnaît, il déplore le fait que lui soit appelé à vieillir, c'est-à-dire à mourir. Donc il est pris dans cette problématique qui est celle de Raphaël, hein, typiquement au début du livre. Et pris dans cette difficulté, Dorian Gray demande, fait cette prière terrible qui est comparable au moment où Raphaël adopte le talisman et le met dans sa poche. Il dit « Je voudrais que ce portrait vieillisse à ma place ». Donc il demande au portrait d'endosser les stigmates de sa propre méchanceté à sa place. Et la première stigmate, les premiers signes du vieillissement apparaissent avec quelques gouttes de sang dans la paume de sa main, dans la paume de la main du portrait, qui est donc un portrait en pied, un portrait de Dorian Gray, c'est comme ça qu'on le sait, parce que quand Dorian Gray éconduit l'actrice dont il trouve qu'elle a mal joué, alors qu'il emmenait ses amis la voir et qui a tué son talent par amour pour lui, alors que lui s'en débarrasse, et donc elle-même meurt, se tue, si j'ai bonne mémoire encore, et du coup Dorian Gray prend un premier coup de vieux, enfin le portrait de Dorian Gray prend un premier coup de vieux à cette occasion. C'est la même histoire. C'est la même histoire, c'est-à-dire voilà un homme qui se retrouve, qui se reconnaît, qui se voit lui-même.
Enfin, dans le cas de Dorian Gray, c'est vraiment un portrait de lui, alors que là, c'est le Christ.
Ben oui, c'est le Christ. C'est le Christ vu par un ange déchu. C'est le Christ vu par un ange déchu qui porte lui-même le nom de l'archange, dont le nom signifie « Dieu guéri ». Je veux dire, on n'est quand même pas loin. Voilà un tableau peint par quelqu'un qui porte le même prénom que lui, qui est le prénom d'un homme que Balzac décrit comme un ange égaré, qui lui-même signifie Dieu guéri, et dont l'histoire est d'être l'histoire d'un archange qui rend la vue au vieux Toby. C'est-à-dire que c'est celui qui est en charge de rendre la vue, qui guérit, qui lui-même se reconnaît dans le portrait du Christ, qui porte dans sa chair toutes les douleurs des hommes, et qui, de ce point de vue, en un sens, est notre rédempteur, portrait peint par un artiste qui porte le prénom de celui qui le regarde. De là à dire que Raphaël se reconnaît dans ce portrait, il n'y a qu'un pas que moi je franchis sans douleur.
Oui, mais c'est difficile de voir en Raphaël de Valentin une figure christique. Et...
C'est l'antéchrist. C'est l'antéchrist, Raphaël de Valentin. On a dit tout à l'heure que le livre La peau de chagrin, l'interprétation qu'on pouvait en offrir, oscillait entre une lecture surnaturelle, bien naturelle, il est naturel d'y voir un livre surnaturel, puisque tout semble l'indiquer, et le constat, au fond, que, bah voilà, le type, bah c'est pas de bol, quoi. C'est pas de bol, il meurt parce qu'il est vieux, parce qu'il s'abîme, ou plus, bon, enfin bref, on peut aussi lire ça comme une série de concomitances. Or, ces deux lectures déterminent, me semble-t-il, le rapport qu'un individu doit avoir avec ce qui est son portrait, parce que ce que je veux dire ici, c'est que pour ne pas croire à la pensée magique dans ce livre, il faut croire à la providence. La seule façon qu'on ait, je crois, de ne pas croire à la pensée magique, c'est-à-dire de ne pas croire que c'est le talisman, la peau de chagrin, qui condamne Raphaël de Valentin une fois qu'il s'en saisit, la seule façon que l'on ait de sauver, entre guillemets, je ne suis pas sûr que ce soit le souhait de l'auteur d'ailleurs, mais peu importe, de sauver ce livre de sa lecture surnaturelle, c'est de considérer qu'au fond tout ça c'était le destin.
Mais sans être de mauvaise foi, Raphaël, est-ce qu'on ne peut pas considérer aussi que le destin, enfin, croire au destin, c'est une pensée magique de la même façon, croire à la providence?
Ben c'est ça qui est paradoxal, c'est que de la même façon qu'il y a une différence entre une religion et une secte, parce que l'eschatologie religieuse est constamment ajournée alors qu'une secte vous promet concrètement le paradis sur terre, de la même façon que cette différence se fait dans l'usage des métaphores, c'est-à-dire dans la question de... En gros, les sectes sont plus littéralistes et les religions plus herméneutiques. Une religion interprète un texte et voit volontiers une métaphore dans le fait qu'un homme marche sur l'eau. Une secte aura tendance à considérer que le Christ a effectivement marché sur l'eau. C'est le moment où la place Saint-Pierre devient la cour des miracles, si vous voulez. Le moment où on bascule dans la pensée magique. Les religions ne sont pas exemptes, d'ailleurs, de cette tentation sectaire, qui est le moment où on prend au sérieux les miracles extravagants du Christ. C'est le moment où on bascule dans la pensée magique. Mais il y a une différence entre le fait de dire que tout est écrit, au départ, à la façon d'un romancier, hein, qui écrit son livre, et qui donc met en scène la rencontre de Raphaël de Valentin avec ses individus, etc., et le destin, la parole, le fatum de Raphaël de Valentin, Et le fait de dire qu'il est tombé sur un truc, un piège à filles, qui lui permet d'exaucer tous ses désirs à l'instant où il le souhaite. C'est pas le même discours. Si vous me dites, à la fin de votre vie, Paola, qui est lointaine, mais enfin qui finira par vous arriver, si vous dites à la fin de votre vie, c'était mon destin, en disant cela, vous faites pas de la pensée magique, vous ramassez toute votre existence en lui donnant une direction. Bon. C'est pas de la pensée magique, c'est une lecture infalsifiable, donc peut-être fausse, mais peu importe, infalsifiable de l'existence que vous avez menée. Si vous dites en revanche, un jour dans ma vie, j'ai rencontré un truc, je me suis noué un bracelet autour du poignet, et de ce jour-là, tous mes désirs ont été exaucés, vous dites pas tout à fait la même chose. C'est pas le même discours. Or, dans la peau de chagrin, pour échapper à l'interprétation magico-surnaturelle des pouvoirs du talisman, on est obligé de souscrire à une lecture religieuse. De là, cette ambivalence, je crois, et l'attention qu'il porte à ce portrait, le même homme étant déjà là de Raphaël au moment où il regarde le tableau du Christ peint par Raphaël. Bon, on arrête là sur cette question.
Et passons donc de cette lecture religieuse à l'orgie, puisque c'était tout de même le pacte qu'on avait convenu la dernière fois, Raphaël, c'était qu'on faisait une deuxième émission pour pouvoir parler du banquet, de l'orgie et de Phrasie et d'Aquilina, entre autres.
Oui, il faudrait passer à l'orgie. Mais il y a un problème dans votre histoire. C'est que si on passe à l'orgie, on enjambe la peau. On enjambe la peau de chagrin. Et donc je suis contraint, vous dont les désirs sont désordre en principe, de m'opposer à cette volonté que vous avez d'arriver à l'orgie, Paola, à cette partie décadente de vous-même, de m'y opposer, en tout cas de la suspendre un instant encore, pour en venir malgré tout quand même à la rencontre avec la peau d'onagre.
Le jeune homme se leva brusquement et témoigna quelques surprises en apercevant au-dessus du siège où il s'était assis un morceau de chagrin accroché sur le mur et dont la dimension n'excédait pas celle d'une peau de renard. Mais par un phénomène inexplicable au premier abord, cette peau projetait au sein de la profonde obscurité qui régnait dans le magasin des rayons si lumineux que vous eussiez dit d'une petite comète. Le jeune incrédule s'approcha de ce prétendu talisman qui devait le préserver du malheur, et s'en moqua par une phrase mentale. Cependant, animé d'une curiosité bien légitime, il se pencha pour regarder alternativement la peau sous toutes les faces et découvrit bientôt une cause naturelle à cette singulière lucidité. Les grains noirs du chagrin étaient si soigneusement polis et si bien brunis, les rayures capricieuses en étaient si propres et si nettes que, pareilles à des facettes de grenat, les aspérités de ce cuir oriental formaient autant de petits foyers qui réfléchissaient vivement la lumière. Il démontra mathématiquement la raison de ce phénomène au vieillard, qui pour toute réponse sourit avec malice. Ce sourire de supériorité fit croire au jeune savant qu'il était la dupe en ce moment de quelque charlatanisme. Il ne voulut pas emporter une énigme de plus dans la tombe et retourna promptement la peau comme un enfant pressé de connaître les secrets de son jouet nouveau.
Voyez, Paola, là encore, il y a surnaturel ou pas surnaturel ?
Mais ça s'affronte clairement dans le texte.
Clairement, clairement. Le truc brille dans la nuit. On se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est pas un ver luisant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On se dit, c'est magique. Et puis pas du tout, en fait, il y a une explication physique à cela.
Oui, mais l'explication physique est ici, se manifeste ici avec une pointe d'ironie et de quelque chose de grotesque. Il démontra mathématiquement que ça fait un petit peu, dans Jacques le Fataliste, si mon souvenir est bon, lorsque Jacques veut démontrer quelque chose à son maître et puis tombe par terre par une pirouette, il était démontré que, voilà. C'est
oui,
un
c'est
côté
ça.
Un peu comme ça.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un côté pauvre matérialisme. C'est un peu Anaxagore qui dit « Quelle est la cause du fait que je m'assois ?» La cause du fait que je m'assois, c'est que mes muscles et mes tendons se plient et que je peux ainsi poser mon séant sur une chaise. Or, dit Socrate, et c'est là qu'il s'éloigne de l'enseignement d'Anaxagore, non, je m'assois parce que je veux m'asseoir. La cause, elle est dans l'esprit, elle est dans l'intention, elle n'est pas dans le corps qui lui est soumis à l'intention que je lui propose. Effectivement, c'est un dialogue. Raphaël de Valentin fait l'homme de science. Lui qui dira plus tard à Émile que l'athéisme est un squelette, en vérité est une version très pauvre du monde, parce que quand on regarde toutes les merveilles produites par la religion, donc le même homme qui se refuse à l'athéisme au nom de la pauvreté d'un monde rendu à son absence de Dieu. Le même homme qui se refuse à l'athéisme est également celui qui, ici, fait le monsieur Homais devant la peau de chagrin en disant « Mais attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ça brille et ça scintille parce que, je sais pas quoi, les aspérités du cuir forment des petits foyers qui réfléchissent vivement la lumière, ce qui fait bien marrer le vieillard. »
Et quelque chose qui irait dans le sens, mais là on en revient à le problème, au double, à la double, enfin à l'alternative, voilà, j'ai trouvé le mot que je cherchais, qu'on se pose depuis le début, c'est que qu'est-ce qui se réalise justement au moment où il sort du cabinet de curiosité, il tombe sur ses amis qui vont l'emmener à cette orgie. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, ce que se dit Raphaël, c'est que c'est pas tellement étonnant en soi, c'est la façon naturelle de l'enchaînement qui stupéfait Raphaël. C'est le fait que ça apparaisse d'une façon si naturelle. Et
oui.
Cette question, parce que du point de vue du récit, c'est totalement invraisemblable. Et Balzac s'en moque bien et suspend tout principe de vraisemblance. Et lui, Raphaël, par contre, trouve ça tout à fait naturel.
Oui, parce que, il sort du truc, il tombe sur ses amis. Donc, la providence, non pas la providence, mais la magie du chagrin, s'opère à la faveur du plus banal des hasards. On peut tout à l'heure, en sortant de la maison de la radio, vous comme moi, tomber sur des bons amis qui décident qu'aujourd'hui on bosse pas et qui nous emmènent dans un banquet. C'est peu probable, mais on ne sait jamais. Tout cela est possible, comme on peut tout à l'heure, en sortant, rencontrer la femme ou l'homme de notre vie. Peu importe, c'est une autre histoire. Mais en soi, si ça nous arrive, on ne se dira pas que, ce désir que nous avions pourtant, a été exaucé comme par hasard ce jour-là et qu'en réalité c'est un miracle. On se dira, tiens, ça tombe bien. Or, c'est exactement ce que se dit Raphaël. Mais pourtant, que disent les amis en question pour maintenir justement le régime de l'ambiguïté ? On en avait parlé la dernière fois. Nous, véritables sectateurs du dieu Méphistophélès, avons entrepris de badigeonner l'esprit public, de rhabiller les acteurs, de clouer de nouvelles planches à la baraque gouvernementale, de médicamenter les doctrinaires, de recuire les vieux républicains, de réchampir les bonapartistes et de ravitailler les centres pourvu qu'il nous soit permis de rire in petto des rois et des peuples, de ne pas être le soir de notre opinion du matin et de passer une joyeuse vie à la Panurge ou Morée Orientalie, couchés sur de moelleux coussins. Nous, véritables sectateurs du dieu Méphistophélès, on en parlait la dernière fois, pour mémoire, c'est celui qui se présente à Faust en lui disant « Je suis l'esprit qui toujours nie, et c'est avec justice, car rien n'existe en ce monde qui ne mérite d'être détruit ». La référence à Faust est ici objective, évidente, et surtout, laisse planer, mais alors, dans l'œil du lecteur, plus encore que dans celui de la victime de la peau de chagrin, c'est-à-dire de Raphaël de Valentin, du propriétaire, celui qui possède la peau de chagrin, qui donc est possédé par elle, cela sonne immédiatement comme un signe avant-coureur du désastre qui l'attend. Et ça, c'est un truc extraordinaire quand même dans ce livre. C'est que Balzac réussit avec ce livre à nous montrer à quel point un homme qui veut se suicider tient encore à la vie. Là encore, on en parlait la dernière fois. Je veux dire, vous voulez vous suicider, vous croyez votre dernière heure venue, votre dernière minute venue. Et si un hasard, un concours de circonstances ajourne un instant cela, vous êtes immédiatement repris par le fil de vos désirs. Et en réalité, on comprend à cette occasion que le désir de mourir n'était qu'un désir parmi d'autres, n'était qu'une façon parmi d'autres de tenter d'être heureux. Encore une fois, Pascal l'a dit, tous les hommes cherchent le bonheur, même ceux qui vont se pendre. Donc, ce désir grandiloquent du suicide par lequel nous croyons vouloir mettre un terme à tout est en réalité, chez nous, l'expression d'un désir parfaitement compatible avec d'autres désirs, avec d'autres envies. Et Raphaël de Valentin fait cet apprentissage en se retrouvant non pas sous les eaux noires de la Seine avec une mort microscopique, mais dans un banquet plein de prostituées et de vins capiteux.
Assis sur un moelleux divan, les deux amis virent d'abord arriver près d'eux une grande fille bien proportionnée, superbe en son maintien, de physionomie assez irrégulière, mais perçante, mais impétueuse, et qui saisissait l'âme par de vigoureux contrastes. Sa chevelure noire, lascivement bouclée, semblait avoir déjà subi les combats de l'amour, et retombait en flocons légers sur ses larges épaules,
qui offraient des perspectives attrayantes à voir. De longs rouleaux bruns enveloppaient à demi un cou majestueux, sur lequel la lumière glissait par intervalles en révélant la finesse des plus jolis contours. La peau d'un blanc mat faisait ressortir les tons chauds et animés de ses vives couleurs. L'œil armé de longs cils lançait des flammes hardies, étincelles d'amour. La bouche, rouge, humide, entr'ouverte, appelait le baiser. Cette fille avait une taille forte, mais amoureusement élastique. Son sein, ses bras étaient largement développés, comme ceux des belles figures du Carrache. Néanmoins, elle paraissait leste, souple, et sa vigueur supposait l'agilité d'une panthère, comme la mâle élégance de ses formes en promettait les voluptés dévorantes. Quoique cette fille dût savoir rire et folâtrer, ses yeux et son sourire effrayaient la pensée. Semblable à ces prophétesses agitées par un démon, elle étonnait plutôt qu'elle ne plaisait. Toutes les expressions passaient par masse et comme des éclairs sur sa figure mobile. Peut-être eût-elle ravi des gens blasés, mais un jeune homme l'eût redouté. C'était une statue colossale, tombée du haut de quelque temple grec, sublime à distance, mais grossière à voir de près. Néanmoins, sa foudroyante beauté devait réveiller les impuissants, sa voix charmer les sourds, ses regards ranimés de vieux ossements. Aussi Émile la compara-t-il vaguement à une tragédie de Shakespeare, espèce d'arabesque admirable où la joie hurle, où l'amour a je ne sais quoi de sauvage, où la magie de la grâce et le feu du bonheur succèdent au sanglant tumulte de la colère. Monstre qui sait mordre et caresser, rire comme un démon, pleurer comme les anges. Improviser dans une seule étreinte toutes les séductions de la femme, excepté les soupirs de la mélancolie et les enchanteresses modesties d'une vierge. Puis, en un moment, rugir, se déchirer les flancs, briser sa passion, son amant, enfin se détruire elle-même, comme fait un peuple insurgé. Vêtue d'une robe en velours rouge, elle foulait d'un pied insouciant quelques fleurs déjà tombées de la tête de ses compagnes, et d'une main dédaigneuse tendait aux deux amis un plateau d'argent. Fière de sa beauté, fière de ses vices peut-être, elle montrait un bras blanc qui se détachait vivement sur le velours. Elle était là comme la reine du plaisir, comme une image de la joie humaine, de cette joie qui dissipe les trésors amassés par trois générations, qui rit sur des cadavres, se moque des aïeux, dissout des perles et des trônes, transforme les jeunes gens en vieillards et souvent les vieillards en jeunes gens. De cette joie, permise seulement aux géants fatigués du pouvoir, éprouvés par la pensée ou pour lesquels la guerre est devenue comme un jouet. « Comment te nommes-tu ? » lui dit Raphaël. « Aquilina. »
C'est un sacré morceau de texte et un sacré morceau de femme, Raphaël.
Oui, si on peut le dire comme ça, mais qu'en termes non galants, ces choses-là sont dites. À un moment, quand Raphaël de Valentin dispose de son pouvoir, s'aperçoit à la fin de son récit, c'est-à-dire à la fin du banquet, à la fin de la deuxième partie, qu'il a ce pouvoir terrifiant, cette funeste puissance, il dit « Mais enfin, je peux ce que je veux, je ne veux rien. » Et là, Émile lui dit, voilà, je te donne pas deux minutes pour devenir avare comme un grippe-sou épouvantable, alors que tout le monde se moque de lui. Il y en a un qui dit, envoie une apoplexie à mon oncle, le grand sec, et moi je veux ci, moi je veux ça. Et il y a Aquilina qui dit, et je veux des chevaux, et qu'ils aillent vite. Aquilina, c'est le pouvoir. C'est la volupté toute puissante. C'est la figure du pouvoir. Souvenez-vous, Paola, quand on parlait du vieillard et de ce monologue du vieillard qui met en garde Raphaël de Valentin en lui disant « Le vouloir et le pouvoir consument l'humanité, le savoir permet de tout obtenir sans rien désirer », ce conseil de bienveillance du vieillard, ce conseil-là est à mon avis incarné par les deux prostituées que l'on croise dans l'orgie, qui sont Aquilina et Euphrasie. Euphrasie, dont on lira le texte qu'il a décrit, son monologue, Euphrasie correspond davantage à la volonté de la volupté. Aquilina, c'est une volupté qui a conquis son pouvoir. Elle est assise, tranquille et sereine dans son pouvoir. D'ailleurs, Euphrasie est beaucoup plus destructrice qu'Aquilina. Le tempérament de ces deux courtisanes n'est pas du tout le même. ou plutôt, ce sont deux versions de l'hubris humaine. Mais la première, Aquilina, prend davantage soin d'elle. D'ailleurs, elle est probablement plus âgée que Euphrasie, celle qui parle bien. Aquilina, c'est la reine du plaisir, c'est la joie humaine. Alors, bien sûr, c'est une joie qui dissipe les trésors amassés pendant trois générations. Bien sûr, c'est une joie dont l'incurie détruit la totalité de ce que les hommes ont pu amasser pour se procurer un soupçon de cette joie. Bien sûr, elle marche sur des cadavres, évidemment. Bien sûr, c'est un diable. Mais c'est le diable pouvoir. C'est le diable puissant. C'est pas le diable qui vous aiguillonne. C'est pas le diable qui, d'une certaine manière, imprime en vous, non pas la volupté, mais la torture du désir voluptueux. Et ça, c'est plutôt, je crois, le rôle qui revient à l'autre, c'est-à-dire Euphrasie.
France Culture, le gai savoir.
Raphaël Antoven.
Je voulais vous poser une question, parce qu'on ne l'a pas vraiment soulevé, parce que premièrement, on n'a pas le temps d'aller dans l'intégralité du roman, mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi que tout ce qui arrive à Raphaël, sa maladie ou de toute façon sa condamnation à mort par la peau de chagrin, enfin par...
Par le talisman, par la détention du talisman, oui.
Est-ce qu'on ne pourrait pas penser qu'il expie une faute de sa jeunesse, qui est celle de ne pas avoir choisi Pauline et d'avoir été trop ambitieux et d'avoir voulu une femme riche, comme l'était Fédora, au lieu qu'à la place de l'amour innocent et prometteur que lui offrait la jeune Pauline?
Vous offrez là une lecture bien chrétienne de cette histoire, mais pourquoi pas? Effectivement, on est libre d'y voir. Il faut rappeler, hein, pour nos auditeurs, ceux qui n'ont pas la peau de chagrin en tête ou qui ne l'ont pas lu depuis longtemps, que le cœur de Raphaël oscille entre Pauline et Fedora. Pauline, c'est celle qui lui lave son linge hein, dans sa petite turne quand il est étudiant et à Paris, ambitieux. Bon.
Et à qui il apprend le piano?
Exactement. À qui il apprend le piano, à qui il apprend quasiment à lire, à qui il apprend tout ce qu'il sait, etc. Et qui devient riche quand il la rencontre, quand il la retrouve, elle est riche. Pauline, Raphaël, il se voit. Et il la voit dans de beaux vêtements, etc. Donc c'est celle qui est... Elle est devenue riche, Pauline de Vichno, elle s'appelle. On ne voit son nom qu'une seule fois. Fedora, c'est celle qui les conduit. On peut effectivement considérer que Raphaël est puni pour avoir préféré le vice à la vertu. Que c'est un châtiment. Mais... C'est par accord avec la sagesse d'Euphrasie, c'est-à-dire c'est par accord avec l'espèce de sagesse qui vaut à Euphrasie de considérer que, enfin, qui ne trouve dans la vie comme elle est, dans la sinistre existence qui nous condamne à naître par hasard dans un monde qui s'en moque avant d'y mourir sans savoir pourquoi, donc bref, dans cet intervalle entre une naissance qu'on a oubliée et une mort qu'on ignore, la sagesse d'Euphrasie est de dire, jouissons. Jouissons, buvons, jouissons, etc. Sagesse d'ailleurs qui fait d'elle un des personnages éminents du banquet. Donc, sagesse d'Euphrasie. Si l'on suit la ligne tracée par cette sagesse, on sort, je crois, de la perspective quasi eschatologique que vous soulignez en expliquant que Raphaël, ayant préféré Fedora à Pauline, finit par être puni. Je suis d'autant moins d'accord avec ce que vous dites que, en définitive, souvenez-vous de la fin du livre. À la fin du livre, Raphaël, fou de désir parce qu'il aperçoit le sein de Pauline, lui dit « Pauline, viens !» Il se jette sur elle avec la célérité d'un fauve alors qu'il est mourant. Et il la course, comme on dit, à travers les différentes pièces de sa maison, il finit par l'attraper, il lui mord le sein et il meurt en lui mordant le sein. Remarque de Pauline, « Eh bien... »
Ne l'avais-je pas prédit ?
« Je l'ai tué. » Je l'ai tué, si j'ai bonne mémoire.
Et elle rajoute, ne l'avais-je pas prédit?
Exactement. Attendez, on va juste vérifier ça, parce qu'on ne peut pas raconter de bêtises à nos auditeurs. Eh bien, j'y viens. Que demandez-vous, dit-elle? Il est à moi, je l'ai tué, ne l'avais-je pas prédit? C'est Pauline qui tue Raphaël.
Oui, parce qu'à un moment, elle lit les lignes de sa main, et elle y voit qu'il mourra tué par la femme qu'il aime.
Exactement. Mais ça va au-delà, hein, je crois, de la pensée magique. C'est-à-dire qu'il est mort de désir pour cette femme. Il est mort d'avoir éprouvé pour Pauline un désir comparable à celui qu'il éprouvait pour Fedora. C'est au fond le tort de Raphaël. De la même façon que sa vie a été, par la peau de chagrin, indexée sur de la quantité. Et que donc il peut bien s'accrocher pour lui trouver un sens. Vous savez, c'est à la façon de ces gens qui disent « on va vaincre la mort en vivant plus longtemps ». Comme si on mourait moins et on mourait mieux en mourant à 200 ans. Comme si ça changeait quelque chose au problème. On ne triomphe pas de la mort. L'accroissement de la durée de vie, ce n'est pas un progrès, c'est une performance, dans le meilleur des cas. Eh bien là, de la même façon, en déposant sur Pauline un désir de même nature que celui qu'il a déposé sur Fedora, Raphaël se condamne lui-même, puisque c'est un désir qu'il expose justement à la mort. Donc, je ne suis pas sûr, moi, que Pauline soit la rédemption de Raphaël. D'ailleurs, à un moment, Raphaël le croit, quand il rencontre Pauline en s'aventure, là, loin du banquet, puisqu'on va dans la suite du livre. À un moment, il croise Pauline, il s'aperçoit qu'en fait, c'est elle, la femme qu'il aime, bien sûr, donc il ne pense plus à Fedora. Il rentre chez lui, et là, il fait un truc incroyable, il fait ce qu'il n'a pas fait depuis des années. Il regarde la peau de chagrin et il dit « Je veux que Pauline m'aime ». Donc il formule un souhait. Et la peau de chagrin ne bouge pas. Alors il se dit « C'est merveilleux, le charme est dissipé, il me suffisait d'aimer pour cela ». Or évidemment, la peau de chagrin ne bouge pas. Pourquoi ?
Parce que Pauline l'aime déjà.
Exactement, parce qu'elle l'aime déjà. Donc évidemment, la peau de chagrin ne bouge pas puisque c'est un souhait qui est déjà réalisé. Et il pressent une forme de rédemption à travers Pauline, mais le roman est implacable. Le roman est implacable parce que, de la même façon que Raphaël, encore une fois, a la vie indexée sur de la quantité, son désir est fatalement mortifère et détruit, sinon lui-même, du moins l'objet de son désir. Enfin, détruit et lui-même et l'objet de son désir. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de salut ou de rédemption par la jeune Pauline, qui pourtant a un caractère délicieux, est une personne adorable, alors que Fedora est une hyène qui le malmène sans y penser.
Une horrible pâleur dessina tous les muscles de la figure flétrie de cet héritier. Ses traits se contractèrent, les saillies de son visage blanchirent, les creux devinrent sombres, le masque fut livide et les yeux se fixèrent. Il voyait la mort. Ce banquet splendide, entouré de courtisanes fanées, de visage rassasié, cette agonie de la joie était une vivante image de sa vie. Raphaël regarda trois fois le talisman qui jouait à l'aise dans les impitoyables lignes imprimées sur la serviette. Il essayait de douter, mais un clair pressentiment anéantissait son incrédulité. Le monde lui appartenait, il pouvait tout et ne voulait plus rien. Comme un voyageur au milieu du désert, il avait un peu d'eau pour la soif et devait mesurer sa vie au nombre des gorgées. Il voyait ce que chaque désir devait lui coûter le jour. Puis, il croyait à la peau de chagrin. Il s'écoutait respirer. Il se sentait déjà malade. Il se demandait « Ne suis-je pas pulmonique ? Ma mère n'est-elle pas morte de la poitrine ?»« Raphaël, vous allez bien vous amuser !»
Suite à ce passage qu'on a entendu, il y a quelqu'un qui demande à un banquier, qui demande à Raphaël « Désirez-vous des asperges ?» Et Raphaël dit « Je ne désire rien
oui, !»
De peur
rien.
Que quelque chose d'aussi négligeable qu'un plat d'asperges lui coûte quelques gorgées d'eau, c'est-à-dire quelques instants de vie.
Quelques instants de vie. « Je ne désire rien !» lui répondit Raphaël d'une voix tonnante. Oui, effectivement, immédiatement après, une asperge est d'un prix incommensurable, et d'un prix infini. Non, je ne parlerai pas de Proust, Paola. Je vois dans votre regard que vous me sentez partir sur les asperges. On n'a pas le temps. C'est juste là-dessus, puisqu'on arrive au terme de l'émission. Et c'est ainsi qu'il faudra laisser nos auditeurs avec le désir, peut-être, de se replonger dans ce livre. Et pour leur en donner le désir, il me semble important quand même d'insister sur le fait que le seul mot, à ma connaissance, qui soit écrit dans ce livre en capitale d'imprimerie, c'est « mort ». Il voyait la mort. Et le mot est écrit ici en capitale d'imprimerie comme si c'était un visage qu'il avait sous les yeux, comme si c'était le visage même de la mort. En vérité, ce qui se passe là, c'est que Raphaël de Valentin fait une expérience que tout médecin peut faire, et qui explique d'ailleurs bien souvent le tempérament, sinon romantique, du moins romanesque, en tout cas propice à la littérature, des médecins eux-mêmes. Il est celui qui a enlevé toute peau, a enlevé tout secret, enlève tout artifice et découvre ce que voilent imparfaitement les artifices, à commencer par l'artifice d'une orgie. Il est celui qui voit cela. Et alors, c'est pas un effet de sa clairvoyance. C'est pas un effet, ou plutôt, sa clairvoyance n'est pas l'effet d'une entreprise philosophique qui voudrait contourner les apparences pour découvrir la réalité qu'elle recouvre. Genre, je découvre la mort sous le plaisir. Non, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, et c'est sa tragédie. Cet homme-là, et c'est là que le texte du vieillard tout à l'heure prend tout son sens, cet homme-là est condamné au savoir. Voilà un homme. Souvenez-vous de ce que disait le vieillard tout à l'heure. On va finir là-dessus, si vous voulez bien, Paola. Le vieillard tout à l'heure, le vieillard qu'il a croisé dans le cabinet de curiosité, et à qui il ne dit même pas au revoir d'ailleurs, ni adieu, le vieillard est celui qui lui dit « l'humanité est partagée entre le pouvoir et le vouloir ». Et on a vu comment Aquilina et Euphrasie, à leur manière, incarnaient ces deux dispositions du caractère humain. Et le vieillard lui dit, il y a le savoir, et le savoir nous débarrasse du pouvoir et du vouloir et nous permet d'obtenir les choses sans les désirer. Super. Or, Raphaël de Valentin est celui à qui la peau de chagrin donne le pouvoir et qui, par conséquent, à qui donc elle ôte toute possibilité de vouloir, puisqu'on ne peut plus vouloir quand on peut. Le drame de l'humanité n'est pas tant de vouloir au-delà de ce qu'on peut, mais d'être incapable de vouloir une fois qu'on peut, à la façon d'un roi qui s'ennuie, à la façon d'un milliardaire qui ne sait pas quoi faire de son blé, à la façon de quelqu'un dont l'existence, justement parce qu'elle n'est que quantité, n'offre que des plaisirs au lieu d'offrir un sens. Donc, le drame de l'humanité, ça n'est pas de vouloir plus qu'on peut, ça n'est pas de ne pas être Dieu, puisque seul Dieu peut autant qu'il veut. Le drame de l'humanité n'est pas de ne pas être Dieu. Le drame de l'humanité, c'est qu'à l'instant où elle peut pouvoir, où elle peut, elle ne peut plus vouloir. Et surtout, à ce drame s'ajoute un drame supplémentaire, qui est que le savoir que le vieillard de 102 ans présentait à Raphaël de Valentin comme la seule porte de sortie face à ces deux tentations du pouvoir et du vouloir, le savoir est une condamnation supplémentaire. Puisque qu'est-ce que c'est que le savoir, sinon le fait de voir la mort derrière ses visages réjouis, radieux ou alors blafards au lendemain matin, à la façon dont la conscience encore jaune, dans les plis de son sommeil, s'éveille sur un monde de mégots et de bouteilles brisées, si vous voulez. Mais le drame, c'est qu'il ne peut plus. Tout à l'heure, quand il voyait le médecin, il disait un doute philosophique, façon Descartes, l'empêchait de savoir si c'était surnaturel ou non. Or là, il est écrit, il essayait de douter, mais un clair pressentiment anéantissait son incrédulité. Le monde lui appartenait, il voulait tout, il pouvait tout et ne voulait plus rien. En d'autres termes, voilà un homme dont la malédiction n'est pas seulement de pouvoir ce qu'il veut, puisque du coup il ne veut plus rien, mais également de ne pas pouvoir ignorer, de ne plus pouvoir ne pas savoir.
Et mon âme rétrécit comme une peau de chagrin, et mon cœur se flétrit comme une fleur fanée qui meurt au lendemain. Comme une peau de chagrin, comme une peau de chagrin, comme une peau de chagrin.
Allez, c'est fini. Voilà ce qu'en peu de mots nous pouvions vous dire de La peau de chagrin, le chef-d'œuvre de Balzac, à côté duquel Faust n'est qu'un conte pour adultes, et Le portrait de Dorian Gray, dont nous parlerons dans Le Gai Savoir, c'est promis, un roman de cap et d'épée. Un grand merci bien sûr à François Connac, notre réalisateur, votre réalisateur, Alice Ramon, notre collaboratrice, amie et attachée de production, enfin Jason Taous, à la technique aujourd'hui, et puis un merci tout particulier à Jacques Roland, étonnant lecteur de Balzac dont je ne connaissais pas la lecture et dont la voix nous a accompagnés tout au long de ces deux émissions. Faites comme lui d'ailleurs, chers auditeurs, lisez ce livre extraordinaire, lisez-le ou relisez-le, ce livre qui vous amusera autant qu'il vous donnera à penser, ce qui d'ailleurs revient au même. Cette émission, vous pouvez la retrouver comme toutes les autres sur Internet, à la page du Gai Savoir, où vous attendent téléchargements, bibliographies, écoutes en ligne, etc. Mais dans l'intervalle, lisez par exemple Philosophie Magazine, qui enseigne ce mois-ci l'art de prendre son destin en main. Raphaël de Valentin aurait bien fait de le lire lui-même, et qui vous propose un dossier passionnant sur le temps chez Saint-Augustin, ourdi, un dossier ourdi par Étienne Klein et Jean-Luc Marion. J'allais dire le philosophe Étienne Klein et le physicien Jean-Luc Marion. Ils contesteront s'ils le souhaitent. Écoutez également les nouveaux chemins de la connaissance qui, tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, vous proposent la plus inventive des philosophies sous la houlette d'Adèle Van Rett. Changement de décor pour nous dimanche prochain, puisque c'est avec la pensée politique du grand Alexis de Tocqueville, aristocrate de cœur et démocrate de tête selon ses propres termes, que nous vous donnons rendez-vous. À dimanche prochain donc, de 16h à 17h, et à tout de suite, faites comme nous, écoutez l'Atelier du Pouvoir avec Thomas Vider et Vincent Martini.